Ça y est, tu enregistres là.
Bonjour. L'heure du documentaire va nous conduire cet après-midi en Équateur, alors qu'une série de séismes avait frappé l'Amérique latine. Accompagnée par Guillaume Baldi, Clotilde de Gattine avait pris le parti de nous plonger dans la ville de Quito, quelques années après que Rafael Correa ait remporté le 26 novembre 2006 l'élection présidentielle. Les Quiteños vivaient une nouvelle constitution et un fort décollage économique. Quito, c'est aussi le pays des Incas qui virent débarquer dans leur pays des hommes sauvages et poilus montés sur d'étranges lamas. Ces conquérants espagnols infléchirent en 1500 le destin d'un pays qui allait abandonner le culte du soleil, autant que celui de la lune et de Vénus. Ce documentaire a été diffusé une première fois le 15 novembre 2011. Partons à 4100 mètres d'altitude ou presque, près du volcan Pichincha.
En Équateur, Quito, centre du monde. Clotilde de Gattine, Guillaume Baldi.
Yo la estará. Porque ya llego.
No vemos los huancanas. No, pena. Porque de aquí se mira todo.
¿Qué es eso? Muy lejos. Estamos en el Pichincha.
¿Qué es Pichincha?
Regarde cette montagne, Mathias. On est sur le volcan Pichincha.
Entonces va a explotar o qué?
Non, ça ne va pas exploser, parce que ce volcan était actif il y a très longtemps.
Mais bien sûr que non, le Pichincha est actif. C'était quand déjà? En 2002-2003, il y a eu une éruption. Le funiculaire a ouvert en 2005.
Et l'aéroport est ici pour...
Regardez, on voit l'aéroport. Il va être là pour une année encore. Après, il va changer. Pas sûr qu'un nouvel emplacement soit mieux. Il y a eu beaucoup de critiques. Certains pilotes disent que c'est encore plus dangereux que l'aéroport actuel. Parce que c'est un plateau entouré de failles. Et l'air fluctue au moment où l'avion approche, donc il y a beaucoup de turbulences. Ça a duré. Combien d'années ça a duré? 10 ans la construction. Ce sera beaucoup plus loin, à 45 minutes par voie rapide.
C'est cette partie qu'on voit là, après les montagnes. Il y a une espèce de clairière.
Pero si han habido, si han habido accidentes de aviones comerciales, pero no que se estrellan.
En fait, les avions qui atterrissent viennent de là. Il y a eu des accidents d'avions de ligne, mais ils ne se sont pas écrasés à l'atterrissage. C'est plutôt qu'ils sortaient de la piste.
Oui, ils sont sortis de la piste et ont foncé sur des maisons.
En fait, c'est très étrange, parce que tous les avions qui se sont écrasés étaient des avions militaires. Mais ce sont des choses qu'on ne dit pas, c'est secret.
La
ciudad, si bien tiene centro, norte, sur, tiene los valles. Tiene los valles aledaños.
D'ici, on voit bien les différents quartiers. Le nord, le centre, le sud. La ville s'étend vraiment de façon anarchique.
Entonces se arma
la base, c'est la vallée de Tumbaco. Là, c'est la vallée de Los Chilos. Ça se construit beaucoup en périphérie. Pas mal de gens s'installent, pauvres d'un côté, riches de l'autre.
Et además complica un tanto las cosas porque los valles, como tienen un clima bueno para la producción, dejaron.
Les plus riches sont dans des résidences sur d'anciennes zones agricoles.
Y se convirtieron en espacios de vivienda. Ahí está el panecillo. El panecillo también pueden mirar. Se puede mirar.
Là, c'est le panecillo, à la frontière sud,
claro,
du quartier colonial. On voit la statue de la Vierge.
La transformación de modernización para el turismo, ¿no? Porque el panecillo es una zona donde habita gente de estratos populares, pero además.
C'est une zone où vivent des gens de milieux très populaires. Avant, c'était une zone rouge, dangereuse. Ça l'est toujours la nuit.
Quito s'agrandit de manière très désordonnée. On change l'aéroport de place dans un endroit entouré de failles pour pas que les gens puissent construire autour. Mais de toute façon, ici, les gens construisent sans permis, les pauvres comme les riches, dans des zones constructibles ou pas. On pourrait faire une loi qui interdise de construire là, mais à quoi bon? Les gens qui ont de l'argent font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de loi pour eux.
Le nom de Quito viendrait de Quitza, qui veut dire centre, et To, qui signifie le monde dans la langue des Indiens Chachila. Quito est donc le centre du monde. Nous sommes en effet à quelques kilomètres au sud de la ligne imaginaire qui sépare la Terre en deux hémisphères. Quito est aussi la capitale politique de l'Équateur, petit pays de 15 millions d'habitants. Du haut du Pichincha, on embrasse cette cité millénaire. Judith Flores, sociologue, va nous accompagner dans le décryptage de la ville, de ses racines et de ses habitants, Quito, comme un portrait en creux de l'Équateur d'aujourd'hui.
Quito es la capital del Ecuador. Es una ciudad que está ubicada en la sierra, en la zona sierra andina del país. Está ubicada a 2.800 metros de altura. Es una ciudad.
Quito es la capital del Ecuador. C'est une ville située dans la montagne, dans la zone andine du pays, à 2800 mètres d'altitude.
60 kilómetros aproximadamente de largo por unos 6 de ancho. Eso hace que la población esté ubicada en muchas de las.
C'est une ville un peu particulière car elle est étendue tout en longueur sur près de 60 kilomètres pour seulement 6 kilomètres de large. Les habitants ont grignoté les versants des montagnes qui les entourent. On compte à peu près 1 800 000 habitants.
Es una ciudad compuesta por muchos migrantes. En Quito se encuentran muchas.
La ville a toujours accueilli de nombreux migrants de toutes les provinces de l'Équateur et de Colombie et du Pérou. Ça rend sa vie très riche et variée.
Tiene la parte norte, cierto, que es caracterizada como la parte moderna, la parte centro, que es la parte colonial, y la parte sur, que también se ha extendido.
À Quito, il y a la partie nord, c'est la partie moderne, puis la partie centrale de la vieille ville coloniale. Et enfin le sud, qui s'est beaucoup étendu depuis 1950 et qui est très peuplé.
Sino también responde de alguna manera a una connotación socioeconómica. El sur es la zona más popular.
Cette division n'est pas que géographique, elle est aussi socio-économique. J'ai longtemps habité le sud, qui est la zone la plus populaire, alors que le nord, c'est la zone des quartiers privilégiés.
En la política pública hay una marcada aplicación, ¿no? Mientras para el sur hay obras
básicas. Même la politique publique d'équipement urbain n'est pas la même. Dans le sud, on fait des travaux de base, le tout à l'égout, alors que dans le nord, on va jusqu'aux travaux d'ornement.
Es muy fuerte, o sea, ha creado una identidad en la ciudad donde uno dice soy sureño.
Ça a créé des identités fortes chez les quitenos, qui se différencient par leurs origines. Ils sont soit du sud, soit du nord.
década sobre todo ha sufrido una transformación muy fuerte que responde a la dinámica latinoamericana de los centros coloniales.
Entre les deux, le centre de Quito, la ville coloniale espagnole, s'est métamorphosée en 10 ans parce que tout a été réhabilité pour le tourisme. On a plein d'exemples similaires en Amérique latine. C'était très pauvre, beaucoup d'indigènes y vivaient. Les rénovations dans le centre touristique ont poussé les populations les plus pauvres, notamment indigènes, hors de cette zone.
Dans la ville coloniale, à la frontière avec les quartiers sud, des jeunes donnent un concert de rock. Nous rencontrons Eloy Alfaro, anthropologue et militant, petit-fils de l'ancien président équatorien Eloy Alfaro, à qui l'Équateur doit le vote des femmes, la séparation de l'Église et de l'État et la laïcité au début des années 1900. Son petit-fils enseigne aujourd'hui à l'université salésienne. Beaucoup de ses étudiants viennent du sud.
Los migrantes llegaron al sur. Acá al sur están la ciudad obrera. Si ustedes van al sur, van a encontrar muy pocos edificios, casas muy pequeñas, etcétera, ¿no? La mayoría de personas de acá vienen a trabajar al norte.
Au sud, ce sont les anciens quartiers ouvriers. Les migrants qui s'y installent à partir de 1950 vont travailler pour la journée dans le nord. C'est pourquoi vous voyez surtout des maisons basses et peu d'édifices.
La mayoría del sur sí conoce el norte. Muchos jóvenes no van al sur.
Y hay la majorité des quiteños du nord ne connaissent pas le sud, même les jeunes. La différenciation sociale et culturelle est très forte.
En el sur, por ejemplo, ahora existe un movimiento social muy fuerte.
Vous avez un mouvement social très important qu'on appelle les rockeros.
Tous les fins de semaine, vous trouvez concerts de rock, groupes de rock, mobilisations.
Ce sont des métalleux et des punks qui n'ont rien à voir avec la population bobo du nord. Ils ont une autre vision du monde.
Mais ici, dans le sud, c'est un mouvement culturel rockero. Donc, ahí es donde tú encuentras otra forma de ver la vida, ¿no? Otra forma de encontrarse, otra dinámica económica incluso, porque entre ellos intercambian muchas cosas, todo el tiempo están encontrándose.
Au sud, les quartiers entretiennent des solidarités très fortes, alors que le nord, c'est le lieu de l'argent, des rencontres et de la fête.
Encuentro festivo, pero en el sur es una dinámica cultural de otro tipo de intercambio, ¿no? De relacionamiento, de solidaridad. Los grupos rockeros son...
Les rockeros ont pris une envergure politique très importante, car ils ont des députés et des conseillers municipaux.
Les rockeros ont une force sociale que no la tienen los jóvenes en el norte de Quito, porque no la necesitan, digamos.
Ils ont besoin du levier politique, parce qu'ils manquent de tout. Pas comme les gens du nord qui sont plutôt privilégiés.
Depuis 2008 et l'annulation d'une partie de la dette, l'Équateur renoue avec une stabilité économique et politique. Nous rencontrons Yolanda Santana, qui revient de 30 ans d'émigration.
Me fui d'Équateur à los 14 años. Estudié allá en Nueva York.
Je suis parti d'Équateur à 14 ans, au début des années 70. J'ai rejoint ma mère qui avait immigré à New York, car elle avait rencontré là-bas son second mari américain. J'ai fait mes études, puis j'ai travaillé 30 ans. J'ai passé plus de la moitié de ma vie là-bas. J'ai travaillé pour une banque très importante aux USA et en France, le Crédit Lyonnais.
La falta de trabajo, oportunidades.
Dans le passé, on sait que l'économie de l'Équateur était très instable. Les gens ici devaient tout vendre pour pouvoir partir aux États-Unis, en Europe et surtout en Espagne. Légalement ou d'ailleurs illégalement.
No había oportunidades para nadie. Para muchas de estas gentes no había muchas oportunidades. Todo esto está cambiando.
Ici, il n'y avait d'opportunité pour personne. C'était une république bananière.
La confianza.
Tout ça est en train de changer, la confiance revient.
Si se puede, podemos partir aquí a Ecuador, podemos hacer algo. Sí, al momento sé de que hace unos 4 años atrás.
Depuis 4 ans, le mouvement migratoire s'est inversé, grâce au changement de gouvernement et à la révolution citoyenne de Corée.
Está cambiando mucho, y el gobierno está dando la oportunidad a los ecuatorianos que viven en el extranjero.
Le flux des retours augmente. Il y a du travail, des incitations fiscales pour ceux qui souhaitent rentrer.
Y se ve que hay más deseo de muchos ecuatorianos que no podían regresar que ahora.
Et on sent ce désir de retour.
Desde el 2000 comienza un proceso migratorio en el Ecuador muy fuerte. En 2000 hay una crisis económica, bancaria muy fuerte, y a partir de eso el proceso migratorio se dispara totalmente. Eso hace que las familias queden.
En 2000, la crise économique et bancaire a provoqué un mouvement migratoire sans précédent. Ça a beaucoup impacté le modèle familial.
Quienes salen inicialmente a la migración son las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres iban a realizar trabajo.
Les familles se sont retrouvées avec un ou deux membres en moins qui leur envoyaient beaucoup d'argent d'Espagne ou des USA.
Es el trabajo doméstico, el quehacer doméstico, por eso se habla de la internacionalización.
Généralement, ce sont les femmes qui sont parties travailler comme domestiques en Espagne. C'est une forme d'internationalisation de la prise en charge de la famille. Les femmes arrêtent de s'occuper de leurs enfants, de remplir leur rôle pour aller s'occuper des enfants ou des personnes âgées dans le vieux monde, en Europe.
La familia se ha hecho ampliada por lo general, se amplía porque sale mucha gente, entonces tienes niños que no son de tu familia, sino que son de la vecina.
On est dans un moment de crise familiale. La famille s'est élargie.
Se fue a migrar. Entonces,
il y a des enfants qui ne sont pas les tiens, mais ceux de la voisine, et qui viennent vivre avec toi parce que ta voisine a émigré.
Nous sommes à Quito, au centre historique, exactement dans le musée de la ville, et qui était avant un hôpital, un ancien hôpital, connu comme l'hôpital San Juan de Dios. Et cette salle fait partie de l'exposition d'histoire des habitants de Quito. Alors cette salle, c'est sur les premiers habitants, avant l'arrivée des Espagnols. Alors justement, les premiers habitants sont arrivés, ça fait 10 000 ans avant, à peu près, par le nord, par l'étroit de Bering. Et au début, ils vivaient de la nature. Alors ils chassaient, ils récoltaient des fruits. Ils vivaient dans la forêt et dans les páramos. Les páramos, c'est dans la montagne, c'est à partir de 3 000 mètres sur le niveau de la mer. Voilà. Peu à peu, ils ont commencé avec l'agriculture. Alors, ça a été tout un processus. Et avec l'agriculture, ils ont commencé à faire la céramique et la construction. Alors, ça, c'est des typiques constructions indigènes. Elles sont faites de carrizo. Carrizo, c'est une espèce de bambou, de terre et de paille. Et c'est des maisons d'une seule pièce, normalement. Et ça c'est tous les produits qui sont venus avec l'agriculture, avec la récolte. C'est des produits de différentes régions. Ça c'est la région Sierra. Sierra c'est les Andes. Vous avez aussi la région de l'Amazonie et de la côte. Alors ces produits, ils ont commencé à les échanger à Quito. Quito c'était plutôt un endroit, un centre de marché pour échanger les produits, le troc. Les avocats, les achocchas, les patates douces, ça c'est comme des larves de terre, ils les mangent frites ou crues comme ça, et il y a plein de fruits, la tomate d'arbre, la guanabana, le taxo, le sel par exemple, c'est très important pour préserver les viandes. Et bon, à peu près vers 1490, les Incas sont venus ici du sud, du Cusco, Ils sont restés ici entre 40 et 50 années, pas plus que ça, parce que cette arrivée, elle a été interrompue par l'arrivée des Espagnols. Alors, les Incas, ils ont amené le Quechua. Alors, ici, on parle Quechua. Le Quechua, c'est comme un mélange du Quechua avec les dialectes qu'il y avait avant. Et ils ont amené aussi tous les lamas, les alpacas et les vicuñas. Alors, avec cette laine, ils ont commencé le métier à tisser, justement. Et, bon, ici, on a une représentation, une reconstitution d'une chamane, Yachak. En fait, c'est comme... Ça fait partie de la partie symbolique des rituels. Alors, il faisait partie de la nature. Et il soignait les gens avec les plantes de la nature. Et pour eux, bon, ils étaient polythéistes. Alors, ils croyaient dans le soleil, la lune, le jaguar, l'oslo. Ça, c'est une reconstitution d'une tombe. Alors, en fait, c'est un peu pour montrer le cycle de la vie. Pour eux, la mort fait partie de la vie. Il n'y a pas un début ou une fin. Et ils enterraient les morts avec toutes leurs affaires pour qu'ils continuent à vivre. Alors, les vraies tombes, elles ont été juste trouvées en face de l'aéroport de Quito, dans un quartier qui s'appelle la Florida.
Du haut du volcan Pichincha qui domine Quito, avec Judith Flores.
Et el Quito colonial, que ahora es una maravilla, o sea, de hecho siempre el Quito colonial fue uno de los lugares con mayor atracción turística. Se destacan varios.
Le Quito colonial est une merveille aujourd'hui. C'est un des lieux d'attraction touristique majeure.
Que ahora está transformado inicialmente o en la época colonial fue el primer hospital, era el Hospital San Juan de Dios.
Vous avez le musée de la ville. Initialement, il s'agissait du premier hôpital. C'était l'hôpital San Juan de Dios, qui a été abandonné dans les années 70. Avant d'être rénové dans les années 90.
Quand on entre, mira todavía la intención de mantener toda esta estructura colonial. La catedral de Quito es el eje, fue por muchos años el eje religioso, el centro del eje.
La catedrale San Francisco est l'axe central, le centre de la vie religieuse de Quito.
Es una de las plazas que conforman todo el centro.
Elle domine une des places majeures du centre historique.
Por muchas plazas, ¿no? Que es la responde a la estructura colonial. Los españoles organizaron, si uno mira.
Quand on voit Quito d'en haut, on distingue très bien l'organisation en damier. Au centre, c'est la cathédrale et le palais présidentiel. Rafael Correa est le premier président qui n'y habite pas.
C'était compliqué justement parce que bon, les Espagnols ils voulaient construire la ville en carré, trazado de damero. Mais c'était compliqué à cause des falaises, des ravins, tout ça. Quebrada, on appelle en espagnol. Une faille, voilà, faille. Elles ont été bouchées avec des pierres, de la terre, pour justement avoir plus d'espace de construction. C'est pour ça que c'est un risque s'il y a un tremblement de terre, parce que tout peut s'effondrer, non? Alors, bon, on se trouve justement en face d'une église, la cathédrale. C'est une reconstitution, bien sûr. Les gens, ils sont dans une messe. Et là, on voit clairement la culture du baroque. Se montrer d'où on vient, comment on s'habille, quelle race nous avons. Alors, il y avait tout un ordre à suivre. Alors, il y avait d'abord les autorités religieuses, ensuite les autorités civiles, qui étaient les Espagnols. Après, on a les créoles. Les créoles, ils étaient des Espagnols, mais qui sont nés dans les territoires des colonies. Puis, les métis, les indigènes et les noirs. Il fallait suivre un ordre. Et, bien sûr, cette division entre l'homme et la femme. Le patron, la servante.
Et bon, dans ce siècle aussi, y a beaucoup de grèves, beaucoup de révolutions, justement, à cause des autorités locales, à cause des conditions du travail, surtout aux obrajes. Bon, il y a quand même beaucoup d'injustices, et aussi à cause des tributos, des impôts. En fait, Quito, dans ce siècle, rentre dans une crise économique et politique.
La religión oficial y la religión que está más ampliamente difundida en el Ecuador en general y en Quito también es la religión católica que llega con la...
La religión oficial, la plus diffusée en Équateur en général, et à Quito aussi, est la religión católica, qui est arrivée avec le processus de la colonización.
También se da en el mundo y en el ámbito religioso. La mayoría somos...
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un processus de métissage de la société et un syncrétisme religieux. La majorité d'entre nous est catholique, croyant, pratiquant ou pas. Et il y a de nombreuses variantes du catholicisme.
Entonces tenemos la Virgen de la Nube, la Virgen del Agua Santa, la Virgen de tenemos vírgenes de para todos.
Par exemple, l'image de la Vierge est une des plus sacrées. Nous avons la Vierge des nuages, la Vierge de l'eau bénite. Il y en a pour tous les goûts et les couleurs. Les gens croient beaucoup aux Vierge.
Sustituir esta imagen y esta relación muy fuerte que se tenía con la naturaleza.
Les Espagnols ont imposé l'image de la Vierge pour substituer la relation très forte que les Indiens avaient avec la nature. Idem pour l'adoration des momies.
A las momias. Cuando llegan los españoles y ven este trabajo, esta relación que había con los muertos, con las momias, se horrorizan y comienzan a castigar muy fuerte.
Quand les Espagnols sont arrivés, ils ont été très choqués par les pratiques liées au culte des morts, terrorisés même, et donc ils l'ont puni très sévèrement. Donc les Indiens l'ont fait en cachette. Puis ils sont passés une nouvelle représentation du mort, avec des pains en forme d'homme, les wawas de panne.
Son hitos que se han ido que han ido variando. En la década de los 70, de los 80, en Quito habían muchas iglesias con padres que promovían, con sacerdotes que promovían la teología de la liberación. Y mucho del proceso de la teología de la liberación.
Dans les années 70-80, le catholicisme latino-américain a été très influencé par la théologie de la libération. Dans beaucoup d'églises de Quito, les prêtres suivaient ce sacerdoce qui a des accents marxistes et qui prône l'organisation politique des plus pauvres, et donc des Indiens. La théologie de la libération a permis de modeler ensuite toutes les grandes organisations.
En el movimiento indígena, en una parte del movimiento indígena, la religión evangélica también juega un rol fundamental. Y por otro lado, hay en igual a partir de
depuis les années 2000, la religión evangélica a pris beaucoup d'importance. Pour une partie du mouvement indigène, la religión evangélica a joué un rôle fondamental.
Ellos no lo llaman religiosos, de las prácticas espirituales del movimiento indígena, ¿no? Esta relación con el agua.
Comme les Espagnols, les évangélistes récupèrent en partie les pratiques spirituelles indiennes. Lors des fêtes religieuses, les cérémonies commencent par une purification avec l'eau et des offrandes aux montagnes qui cernent Quito.
Esta relación para la siembra con la tierra, dejar una ofrenda, poner velas, comida en la tierra para agradecerle y pedirle nuevos y mejores frutos. Entonces también hay una línea muy fuerte desde el movimiento.
Lorsque l'on sème les terres, on laisse une offrande, on met des bougies, de la nourriture pour remercier la Pachamama, la terre mère, et pour demander d'autres fruits et légumes.
Comme anthropologue, pour moi, le mouvement indigène est un référent social, historique, très important.
Eloy El Faro.
Je crois que si le mouvement indigène. No habría hecho las cosas que hizo.
Le mouvement indigène est une référence sociale très importante. Il existe depuis 20 ans.
De nacimiento, ¿no? Y en esos 20 años ha tenido 12 levantamientos, es decir,
Pendant cette période, il a mené deux soulèvements et a réussi à freiner la libéralisation prônée par le modèle néolibéral.
Esos levantamientos hicieron que el resto de la sociedad, que nosotros, entendamos que hay indios en este pueblo, en este país, que hay negros, que hay mestizos, que hay gays, que hay...
Avant, la société équatorienne n'avait pas conscience de sa diversité, qu'il y avait des indiens, des noirs, des homosexuels. On pensait qu'il n'y avait que des blancs et des métis. Les indiens n'existaient pas.
No podemos hacer nada sin considerar el movimiento indígena. No se puede hacer nada sin considerar a las mujeres, sin considerar a los negros. Eso es gracias al movimiento indígena, a las luchas que...
Aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire sans considérer le mouvement indien, les femmes, les noirs.
Que no les gusta los indígenas.
C'est grâce à la lutte indienne et à sa capacité de mobilisation.
El movimiento indígena, si bien tiene una capacidad de lucha, tiene
una capacidad de organización, también es un movimiento con personas muy pobres, mais au moins on reconnaît leur existence.
Con personas muy pobres, muy empobrecidas, son las más pobres de los pobres del país. Entonces es muy fácil que los gobiernos puedan también
après, bon, ce sont les plus pauvres, donc le gouvernement peut les amadouer et diviser les communautés en leur versant des primes et toutes sortes d'allocations. C'est très facile.
Históricamente, en estos últimos 20 años, por ser tan fuerte el movimiento indígena,
sinon le mouvement est plutôt maltraité à l'échelle nationale. Depuis peu, les ONG étrangères suisses, françaises et hollandaises ont interdiction de l'aider financièrement.
Ces ONG ya no lo pueden hacer. El Estado les prohíbe apoyar al movimiento indígena. También políticamente, el gobierno en el último censo.
Politiquement, ils sont très affaiblis. Le dernier coup bas, ça a été la publication du dernier recensement, qui déclare que seulement 7% de la population est d'origine indienne. Alors que les mouvements tablent sur 30%. Les chiffres ont été biaisés. Et du coup, le gouvernement dit qu'il ne voit pas pourquoi il ferait une politique particulière pour seulement 7% de la population.
El Quito moderno, a mi criterio, refleja bastante bien la dinámica del país, que es una dinámica de concentración en muy pocos lugares geográficos.
El Quito moderno reflète bien la dynamique de concentration dans très peu de lieux géographiques, du pouvoir économique et de la richesse.
Entonces, Quito, esa es una... un cuestionnamiento que se nos hace siempre a los quiteños. Quito concentra mucho del poder.
Quito concentra una gran parte del poder del país.
Pero al interior de Quito también está concentrados en ciertos lugares.
À l'intérieur de Quito, le pouvoir ou la capacité administrative du pays sont concentrés dans le nord de la ville.
Entonces, en Quito, en el Quito central y Quito centro norte, que es este Quito moderno, están todas las instituciones, las instituciones para el tema de impuestos, está también mucha.
On trouve toutes les institutions, les banques, les impôts, l'infrastructure de la santé, les collèges prestigieux. Et bien sûr, il y a aussi les espaces de communication, comme on le voit dans le quartier de Bella Vista, où se trouvent les chaînes de télé privées et publiques, notamment les studios d'Equavisa. C'est une des chaînes principales d'Équateur.
Le dramaturge de renommée internationale Pecky Andino nous reçoit dans les studios d'Equavisa. Il y écrit des telenovelas, ces feuilletons à l'eau de rose latino-américains.
Si ves, hay una avenida que se llama Granados, el 6 de diciembre, donde obreros en desempleo tienen una maleta, donde diariamente ofrecen su fuerza.
Vous voyez, en bas des studios, il y a les avenues de Granados et du 6 décembre, où tous les matins, des ouvriers sans emploi viennent avec leurs mallettes. Ils apportent leurs instruments, une équerre, une règle, une clé anglaise, pour vendre leur force de travail à qui la veut. Je fais la même chose, je vends ma force de travail. Ma force de travail, c'est mon cerveau. Et comme les ouvriers, je l'offre à qui veut me l'acheter. Aujourd'hui, une entreprise de télévision m'a acheté. Demain, ce sera peut-être un cabaret. Peu m'importe.
Mi ética la hago a partir de mi necesidad.
Mon éthique, je la fais à partir de ma nécessité. Donc, je fais de la télévision la journée pour faire du théâtre la nuit. C'est comme la confession d'une pute, mais c'est la réalité. Une éthique qui consiste à mourir de faim n'est pas la mienne. Mon éthique est être dans l'obligation d'utiliser sa force de travail pour survivre, comme les ouvriers et comme les paysans latino-américains. Ça, en Amérique latine, c'est indispensable. Un latino-américain, il doit survivre. C'est
très dangereux de faire ce que je fais. Si trabajar en un canal privado de televisión, la televisión está, que tiene un fin de entretenimiento. La televisión es una mierda aquí en todo el mundo.
C'est très dangereux de faire ce que je fais. Travailler de jour pour une chaîne privée pour le divertissement. La télévision, c'est vraiment de la merde. Ici comme partout ailleurs. Et le soir, je fais un travail politique, théâtral, de l'art expérimental ou alternatif, c'est contradictoire. Mais à la fin de la soirée, cette contradiction, je la comprends mieux.
Rosy es una mujer trabajadora que además de mantener a sus cuatro hijos, también mantiene a su ex esposo, todo un vividor.
Y nuestra primera experiencia fue Quito con K, una obra que veía el Quito a través de los ojos de un fascista, de un chico fascista.
J'ai commencé ma carrière avec la pièce Quito con K, une œuvre qui voyait Quito à travers le regard d'un fasciste, d'un garçon fasciste.
Más bien es un teatro de comedias, pero estuvimos algunas representaciones en lugares populaires.
Quito con K s'est joué dans un petit théâtre de comédie dans la Mariscal.
Donde la obra se entendió mucho más.
Ce n'était pas le Quito Underground. Nous avons fait quelques représentations dans des lieux populaires de l'extrême sud de Quito, où l'œuvre était beaucoup mieux comprise. Le contenu a été très polémique, parce que le public était habitué au théâtre conventionnel, comique, ou au théâtre politique traditionnel, qui obéit aux règles d'une esthétique du réalisme socialiste. Ou encore, au théâtre anthropologique, avec une série d'éléments culturels et à travers une lecture anthropologique du pays. Mais pour moi, personnellement, je vais dire franchement, pour moi c'est de la merde. C'est un théâtre auquel je ne m'identifie pas, qui ne me plaît pas. À l'époque, j'étais l'enfant terrible du théâtre latino-américain, alors que j'avais déjà 29 ans. J'étais très vieux.
Et fue una respuesta muy violenta también de la gente.
J'ai choisi un groupe de rock pour jouer sur scène en live. Le public n'a pas trop apprécié parce que ma vision de Quito n'était pas la vision romantique, la vision touristique ou la vision qui se vend en carte postale pour l'Europe.
Sentir que vivo en un cambio político social. Vivo en el único país en el mundo en el que no se pide visa para entrar, donde.
Comme je suis dramaturge, j'observe les petites choses qui me font sentir que je vis un changement politique et social. Par exemple, je vis dans un des seuls pays du monde qui n'exige pas de visa pour entrer. Et je suis très fier de ça.
Nuestra sociedad que todavía no podemos con ellos y que no puedo yo tampoco con ellos. Eso como el autoritarismo, que es un discurso que está tanto en el Estado como en la cotidianidad, en lo cotidiano, en la familia.
Por autant, des vices subsistent encore dans notre société. L'État tient un discours autoritaire. Dans le quotidien, la famille, nous n'avons pas abandonné la structure patriarcale. La culture de l'hacienda, nous avons très peur, encore, de parler à la première personne. Dans mon théâtre, ça a été mon acte le plus subversif.
Tal vez para mí ha sido el acto más subversivo que he hecho con mi teatro, hablar en primera persona. Y yo quisiera que ese vicio que no nos permite muchas cosas, porque cuando tú hablas de yo soy,
ce vice est un obstacle. Parce que quand tu utilises le « je suis », il y a une possibilité de changement. Avec le « nous », on se camoufle dans la communauté.
El gobierno de Correa es un gobierno que ratifica, que está reformando una dinámica patriarcal, ¿cierto? Entonces, una dinámica primero mesiánica, pero además
selon Judith Flores, Correa veut incarner la figure du père de la nation. Il a le sens de la mise en scène et tient des discours aux accents messianiques.
El que tiene la palabra sobre el cual no hay cómo hacer crítica, tú no puedes criticar.
Le 30 septembre est révélateur des contradictions de Correa.
Entonces a nosotros nos preocupa un montón, que es lo que yo te decía también, el 30 de septiembre, porque el 30 de septiembre a nuestro criterio marcó un hito en la vida de revueltas del país para resolver las cosas vía la violencia. Nosotros hemos votado.
Cela nous a fait peur. Le 30 septembre 2010, selon nous, a marqué une rupture dans les traditions de contestation du pays.
Los policías utilizar las armas, nunca vimos tiroteos. El 30 de septiembre asistimos, ¿no es cierto? ¿Cuál película?
Nous avons déjà renversé 3 présidents dans notre pays et jamais les militaires ou la police n'ont eu à utiliser les armes.
Y a nuestro criterio absolutamente innecesaria, pudo haberse resuelto ese tema, pero
le 30 septembre, on se serait cru dans un film de gangsters, avec des tirs à balles réelles, des bombes, une extrême violence, d'après nous absolument inutile.
Una toma de algún ministerio como lo hacemos aquí, nos tomamos el ministerio, la plaza.
C'est la porte ouverte à ce que dans le futur, le prochain soulèvement indigène soit réprimé avec des balles. La prise d'un ministère, d'une place, comme on le fait ici, soit réprimée de manière violente.
400 juicios abiertos con el causal o de que van desde haber.
À cela s'ajoute tout le processus de criminalisation et de judiciarisation des rapports sociaux et de la protestation. Il y a 400 procès ouverts pour troubles de l'ordre public, voire pour actes de terrorisme. Beaucoup de choses qui n'ont pas été utilisées lors de dictatures sont utilisées aujourd'hui dans un pays supposé démocratique.
Nous sommes révolutionnaires, sommes ciudadanos que protegemos nuestra integridad y exigimos nuestro derecho, tal como lo estipula la Constitución de la República que el señor presidente la aprobó.
Correa présente le 30 septembre de l'année 2010 comme une tentative de coup d'État avortée. En fait, la chronologie des événements n'est toujours pas claire. Dans la semaine qui précède le 30 septembre, toutes les organisations syndicales, locales et même la police manifestaient parce que plusieurs lois étaient en discussion à l'Assemblée nationale. La contestation dégénère quand Correa vient défendre sa réforme de la police dans la caserne la plus contestataire. Le président est visé par une bombe lacrymogène dans les yeux et il est hospitalisé. Alors que tous les manifestants attendent sa sortie de l'hôpital, la police tire sur la foule. Rafael Correa décrète l'état d'urgence et l'armée reprend le contrôle de Quito. Un an plus tard, pour célébrer l'échec du coup d'État, de nombreuses avenues ont été bloquées. Les ambassades de France et des États-Unis déconseillent à leurs ressortissants de sortir de chez eux et le gouvernement a affrété des centaines de bus pour faire venir 200 000 personnes de tout le pays et commémorer ce jour où la démocratie a triomphé. Nous croisons quelques cortèges gentillets. Eloy Alfaro peut témoigner de la violence du 30 septembre de l'an passé.
Nosotros nos acercábamos, sí, y sin que nosotros digamos agredamos a la policía, sin nosotros amenazar a la policía. Solo nos acercábamos, la marcha se acercaba. Y la policía estuvo al frente.
Nous nous approchions du cordon de police qui entourait l'hôpital, où Correa se faisait soigner. Quand soudain, les flics ont tiré sur la foule sans sommation.
Entre los que dispararon estuve yo. Entonces yo recibí un disparo de la policía, como igual que otros.
J'ai été touché, le haut du corps et au bras parce que je me protégeais le visage. J'ai reçu 30 plombs de chevrotine.
Heridos porque no sabíamos por qué la policía nos disparaba. La pelea no era contra ellos, sí. Y fue así las cosas, ¿sí? Entonces,
nous manifestions pacifiquement, nous n'étions ni contre la police, ni pour
no
le gouvernement.
Estuvieron defendiendo al gobierno. O sea, Quito es una ciudad donde convergen todos los provincias del Ecuador, todos los migrantes del Ecuador vienen a Quito.
Quito est toujours la protagoniste dans les conflits sociaux. Comme tous les migrants de l'Équateur convergent ici, Quito a tous les problèmes du pays et aussi toutes les solutions.
Nous connaissons ce qui se passe en une province, en autre province, et la gente est très compromettée. Cada año hay grandes movilizaciones y Quito es la protagonista, la gente de Quito.
On sait ce qui se passe d'une province à l'autre.
No un movimiento social.
Les quiteños sont très informés et mobilisés. Quand il y a des situations politiques extrêmes, les habitants se mobilisent, avec ou sans parti politique, avec ou sans les mouvements sociaux.
Cuando la policía tomó las calles, la gente salió en contra de la policía. No era el presidente, no era rescatar al presidente. En mi caso, no era rescatar
le 30 septembre 2010, quand la police a bloqué les rues, les quiteños sont sortis contre la police. Ce n'était pas pour sauver le président. Moi ou les autres, on est sortis parce qu'on était contre l'attitude de la police, contre certaines lois. C'est un faisceau de cause. Aujourd'hui, nous sommes toujours en état d'urgence. Le 30 septembre a tout changé pour que rien ne change, dans la structure du pouvoir notamment, la justice, l'exécutif, l'armée. Ou alors si, à au moins une chose. Le président était très déçu de voir que ses partisans politiques ne le soutenaient pas clairement. Il veut faire croire que les quiteños le soutiennent, mais en fait, il n'a pas de base politique construite. Le peuple se meut de lui-même.
Il doit attirer des gens de fuera de la ciudad pour esto.
D'ailleurs, pour les célébrations d'aujourd'hui, il a dû faire venir 200 000 personnes du nord d'Ibarra et du sud du pays, Riobamba. Le peuple de Quito est très intelligent. Il bouge par conviction et ne reçoit pas d'ordre.
Los eventos del 30S, del 30 de septiembre del año anterior, si bien se replican en varios lugares, ¿no?, se concentra nuevamente en Quito la resolución. Eso es lo que ha pasado en las dos, tres últimas.
Les événements du 30 septembre de l'année passée ont eu lieu dans plusieurs régions. La résolution s'est concentrée à Quito. C'est la règle depuis 20-30 ans en Équateur.
Votaron, littéralmente, se sacaron del poder a tres presidentes a partir del 90, que es el año en el que inicia el levantamiento.
Le pays a eu une vie politique très mouvementée. À partir des années 90, au moment des premières révoltes indigènes, il y a eu à peu près 3-4 soulèvements qui finissaient par la prise de Quito.
Y literalmente se tomaban Quito, pero esa toma era en el centro de Quito. Entonces, en el centro de Quito también está ubicada.
Les indigènes arrivaient du nord et du sud et prenaient la ville.
Está la casa de la cultura ecuatoriana y que se convirtió después de tantas.
Au centre de Quito, on trouve le parc El Arbolito, où se situe la maison de la culture équatorienne. Toutes les prises de la ville y aboutissaient. C'est devenu un symbole de la résistance.
La Universidad Central es un lugar de mucha conflictividad social. Salen a las, nosotros decimos las bullas, que es estas manifestaciones.
L'Université Centrale aussi est un lieu de nombreux conflits sociaux. Lors des grèves ou des manifestations organisées par des étudiants, ils montent des barricades pour bloquer la circulation. Puis la police arrive avec des bombes lacrymogènes.
La semaine passée, la Universidad Central volvió a ser un centre de confrontation parce qu'il y a une demande des étudiants.
Encore la semaine dernière, l'université était la scène de protestation des étudiants en désaccord avec une réforme.
Certains habitants de Quito regrettent que la ville coloniale, soit devenue un musée. Est-ce votre cas ?
Non, pas du tout. Pas du tout, non, parce que c'est plutôt. C'est plutôt bien de tout restaurer, reconstituer, d'avoir des musées, parce que les gens peuvent.
Adeline Arellano. Au musée de la ville.
Apprendre, ils peuvent échanger leur expérience, leur réalité. Justement, les musées, c'est des espaces pour partager, pour dialoguer avec les gens. C'est pas des espaces qui sont froids. Voilà, ça, surtout ce qu'on essaye au musée de la ville, de dialoguer, de parler avec les gens et de justement échanger les réalités, les différentes réalités et de montrer ce qui est caché aussi.
Quelle est la face cachée de Quito, à votre avis?
Alors, la face cachée de Quito... C'est un peu l'histoire aussi, c'est tout. Je sais pas comment le dire, mais dans beaucoup d'écoles, dans les universités, il y a une façon d'apprendre l'histoire, c'est toujours à travers... je sais, avec les événements, les dates, les héros, c'est toujours les héros. Mais il y a beaucoup de choses que dans les institutions, ils ne montrent pas. Par exemple, si tu vas au centre de Quito, tu vas voir qu'il y a encore des gens qui font des bougies, il y a encore des gens qui sont à la forge. C'est ça les choses qui sont cachées et qu'il faut montrer. Voilà. La sécurité, c'est un problème à Quito. Par exemple, le musée de la ville est dans un endroit où il n'y a pas trop de sécurité. Mais bon, c'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes sociaux, surtout. Il y a une très grande exclusion avec les délinquants, les prostituées, surtout dans ce secteur. Alors, c'est pour ça qu'il y a des problèmes d'insécurité. Alors, c'est pour ça que le musée, par exemple, il va essayer de s'introduire dans le quartier La 24 de Mayo. C'est un quartier où il y a beaucoup de problèmes. Et ce qu'on veut, c'est que les voisins s'approprient de cet espace. Alors... on a beaucoup de projets avec eux, justement pour éviter l'insécurité. Et l'insécurité aussi, se donne. Mais bon, il faut vivre avec ça, en fait, on est habitué à vivre avec ça. Il faut faire attention, mais il faut vivre, ça fait partie de la vie. Parce qu'il ne faut pas aussi devenir parano et être entouré de militaires, de police. Simplement, l'être humain doit vivre avec ça, moi je le vois comme ça. Et si tu t'habitues, tu t'habitues. Mais c'est une façon aussi de te poser des questions et de dire il y a quelque chose qui va mal. Aussi, c'est pas dire on va les rejeter, non. Il faut trouver une solution.
Quelles sont vos solutions? C'est laisser leur offrir la gratuité ou faire
oui,
des activités?
La gratuité, faire des activités, mais surtout que les projets viennent d'eux. Alors, ici, on a des projets avec les enfants, avec des âgés, aussi avec des prostituées, mais que les projets sortent et faire quelque chose au musée, qu'ils puissent trouver un espace. Simplement, par exemple, s'ils veulent avoir une réunion, où on va faire, par exemple, à la fin, décembre, on va voir un festival de hip-hop avec les jeunes de la 24 de mai. En fait, c'est pour qu'ils s'approprient et ils se disent, c'est mon espace, alors je vais essayer de protéger mon quartier. Je ne vais pas le salir, je vais pas attaquer un touriste, je ne sais pas. Voilà. Parce que ce n'est pas une solution de dire allez-vous-en, parce que le problème va se reproduire dans un autre endroit.
Merci à tous nos intervenants, Eloy Alfaro, Judith Flores, Pecky Andino, Adeline Arellano, Yolanda, Patricio et Mathias. Merci pour la traduction à Emmanuel Mouisset et Diana Apunte. Avec les voix de Julie Navarre, Pierre Robin, Marion Sieffert. C'était Sur les docks, un documentaire de Clotilde de Guettine et Guillaume Baldi. Attachée d'émission Christine Gage, Laure-Hélène Planchet. Prise de son Antoine Viossa. Mixage Stéphane Desmonts. Thank you.
Vous écoutez l'heure du documentaire et nous nous retrouverons demain à 17h pour débarquer sur Fatou Iva, la marquise des marquises.